Infested, dis-moi, alors, est-ce que le réseau a flanché?
Non, le réseau a pas du tout flanché.
Quelle surprise!
Alors, il faut savoir quand même que l'ARCEP, notre régulateur des télécoms, avait quand même mis un peu le, avait demandé de mettre un peu le holà au niveau des opérateurs. Et c'est vrai que, ma foi, ils ont très très bien géré la chose. Primo, ils ont obtenu, bah, de la part des opérateurs eux-mêmes, de s'adapter un peu avec plus de débit. Par exemple, il y a un des opérateurs qui a carrément foutu ceux qui étaient en fibre. Ils avaient droit au 1 giga alors que normalement, ils étaient à 100 mégas ou 200 mégas. Donc déjà, ils envoyaient bien le truc. En plus...
Ça nous a servi.
Oui, je dirais pas pourquoi, mais ça nous a servi. ça a permis aussi. Bon, il y a eu des gestes commerciaux, des chaînes de TV supplémentaires, en particulier des chaînes jeunesse, pour pouvoir mettre les gamins devant la nation apprenante, ou alors des services supplémentaires. Enfin, il y a eu pas mal.
Je trouve pas que Pornhub soit particulièrement une chaîne jeunesse. Accessoirement, tu as une stat qui est plutôt intéressante parce que la question était. Est-ce que oui ou non le débit moyen français s'est effondré à ce moment-là?
Alors, le Ookla, l'éditeur de Speedtest, en fait, a publié récemment une statistique de la moyenne de la performance de l'internet français. Et c'est vrai que avant le confinement, on était pour les réseaux fixes, on était autour de 40 mégas et pour les réseaux mobiles autour de 30 mégas. Lorsqu'il y a eu le confinement, on se rend compte qu'il y a un effondrement de débits d'au moins 5 mégabits pour chacun. Mais il faut contrebalancer. Ces résultats, pourquoi? Parce que justement, à partir du moment où il y a eu le confinement, les gens se sont mis à tester leur débit internet à cause justement du fait que ils étaient chez eux.
C'était plus lent.
Ils étaient sur leur accès ADSL pour pouvoir faire du télétravail.
Ou c'était demandé d'ailleurs par leur service technique.
Tout à fait. Donc du coup, avant ils étaient sur un service de téléchargement, ils étaient dans leur entreprise, donc du coup ils avaient l'accès de leur entreprise. Là maintenant il fallait qu'ils se connectent à cet accès de leur entreprise et de travailler depuis chez eux, ce qui est un
via un VPN et tout ça.
Un VPN, via des trucs comme ça, donc du coup le débit était un débit était nécessaire supplémentaire sur leur ligne leur accès internet. Et le plus souvent on passait d'une ligne qui était souvent fibrée ou alors avec un bon ADSL à chez eux pour ceux qui ont de la chance, c'était soit de la 4G fixe pour ceux qui avaient la chance d'être là-dessus, soit le pauvre ADSL où le débit maximum c'est 30 mégas très très grande chance à moins d'un kilomètre du central et autres avoir du VDSL et là pouvoir atteindre 70 mégabits par seconde.
C'était pas l'entreprise qui avait pas un débit fabuleux et évidemment avec un VPN c'est divisé par deux.
Voilà. c'est un truc comme ça. Mais par contre, les baisses de débit, lorsqu'on regarde les statistiques, il y a eu une baisse de débit, mais c'est simplement parce que primo, il y a eu une très forte augmentation des tests, ne serait-ce même que sur le fixe, parce qu'il fallait tester la ligne pour savoir si elle tenait la nation apprenante côté des enfants avec les cours et les devoirs, et le télétravail pour les parents, plus la télévision. Donc du coup, ça consomme du débit sur la ligne standard. Et du coup, il fallait tester en permanence, savoir. Et c'est simple, sur la première semaine du confinement, au CLA, les speed tests, ils ont fait 80% de la charge habituelle. Qui est assez énorme, c'est quasiment
donc du coup effectivement c'est plus en fait un effet statistique qui fait que le débit moyen français a diminué que réellement un problème de charge des serveurs.
C'est pas vraiment un problème de charge serveur, en plus l'ARCEP et le gouvernement ont bien demandé aux éditeurs de contenu de diminuer la qualité des vidéos, de réduire les débits qui sont disponibles, voire même pour certains ils ont carrément programmer les mises à jour, les choses comme ça, durant ce qu'ils appellent les heures creuses, c'est-à-dire tard la nuit ou des choses comme ça, et les gens, comme ils laissent leur ordinateur pour pouvoir rester, pour pouvoir retrouver le matin, les systèmes, les logiciels de mise à jour faisaient ça vers minuit, 1h, 2h du matin.
Ok, et d'un autre côté, où on en est sur le déploiement de la fibre en France?
Alors, le déploiement de la fibre en France, là, a été un peu...
Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il a plein de papiers devant moi et il a oublié qu'on faisait de la radio. Donc, on mettra les liens si on peut. Ce serait dommage.
Voilà. Mais la plupart des liens viennent de... La plupart des feuilles viennent de deux documents. C'est le bilan de l'Internet qui a été publié cette semaine où on enregistre, ainsi que l'Observatoire du très haut débit fait par les associations Infranum. C'est les acteurs du déploiement, surtout. Ils sont... attaché au plan très haut débit, et l'AVICA qui est en fait la réunion de tous les départements, régions, syndicats numériques qui justement ils ont fait une étude globale. Et malheureusement le Covid, enfin le confinement a un peu mis en pause tous les déploiements, tout ce travail, que ça soit du côté des études ou que ça soit justement le déploiement en dur et ouverture des tranchées, mise des câbles dans ces trucs là si on prend par exemple la Haute-Garonne, au début du confinement, les opérateurs, que ce soit Orange SFR ou que ce soit Fibre 31, ont commencé à mettre en place en fait un mode minimum, c'est-à-dire qu'ils terminaient les travaux qu'ils étaient en cours ou ils faisaient de la maintenance sur les réseaux existants. Avec les décisions suivantes du gouvernement, le département a dit tous les travaux publics, on les arrête et on verra plus tard si on pourra les réouvrir. Pour les opérateurs commerciaux, d'infrastructures commerciales, eux, ils ont plutôt dit on y va mollo, on a déjà des travaux à terminer, on va d'abord les terminer et ensuite, advienne que pourra. Puis, quand il y a eu le déconfinement, progressivement, il y a eu des nouveaux protocoles qui ont été mis en place, avec le gel hydroalcoolique, avec les gants, les masques, les trucs comme ça. Et petit à petit, il y a eu des reprises de l'activité. Mais durant ces mois, alors côté déploiement, t'avais posé peut-être le câble ou les trucs comme ça, mais tu pouvais pas rattacher aux maisons,
le dernier mètre,
c'était pas possible. Ensuite, côté bureau d'études, on faisait l'étude avec des cartes, pas avec les gens qui faisaient leurs essais sur place. Tu pouvais pas. Donc du coup, au moment du déconfinement, ça y est, il a fallu se remettre sur le terrain et tout en respectant les gestes barrières et les différents règlements pour voir recommencer. Du coup, on a une perte de 1 million de prises qui était prévue.
Sur combien ? C'est 1 million de prises qui devaient être installées en 2020. Sur combien ?
Sur 5,3 millions.
Oui, d'accord, ok. Ça prend un retard. Ouais.
C'est assez conséquent. Et comme il y a eu aussi ces retards côté études, mais on devait avoir en 2021 5,2 millions de prises. Hélas, 500 000 prises ne vont pas pouvoir être déployées durant cette année-là qui était prévue. Sachant que progressivement, on allait continuer des prises, des déploiements. Le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas prévu justement de récupérer ces prises. Et comble de la chose, c'est qu'en plus, de nouvelles adresses, de nouvelles maisons se sont installées, de nouveaux sites doivent être couverts. Et là, on a un supplémentaire de 1,5 million. En plus.
D'accord, ok.
Donc ça aide pas en plus, ça va accumuler jusqu'à 3 millions.
Et je pense qu'il y a pas mal de familles qui vont plus penser maintenant à s'établir dans des résidences, lotissières plutôt que dans des bars d'immeubles.
Même là, c'est assez difficile. Je commence à voir des cas où en fait justement, le fait qu'il n'y ait pas eu trop ces déploiements, ils peuvent pas rentrer dans les lotissements. Donc du coup,
ça va retarder pas mal aussi.
Un des points noirs qui a été identifié par l'Infranum et l'AVICA, c'est la base d'adresse. Et en fait, on se rend compte qu'il y a dans certaines communes et dans certains départements jusqu'à 50% de prises qui n'ont pas d'adresse réelle.
Aïe.
Voilà.
Ça va être chaud.
Il demande l'intervention de l'État pour mettre une base saine et exhaustive.
Et sur la 5G, alors déjà, est-ce qu'ils ont accéléré du coup des déploiements 4G sur des sites ?
Alors, oui et non. On va dire, au total, l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, explique que les déploiements en fait n'ont concerné en moyenne par mois que 200 à 240 sites supplémentaires qui ont été couverts en 4G. Sur les deux mois de avril et mai. Habituellement, on est autour de 300, 400, 500 sur ces périodes-là. Donc, on sent bien une baisse du déploiement. Par contre, finalement, ça a été les décisions qui ont été prises par l'État durant ce confinement, ça a été surtout pour aider à meilleur accès aux installations. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment eu une grosse progression, mais il y a quand même une progression. Mais bon, il fallait que les mecs aillent avec des gants, avec des comme ça pour installer. Là maintenant, je pense qu'avec le mois de juin, on va avoir une reprise un peu normale.
On est sur la fin du mois de juin. Là.
Voilà. Par contre, 5G, rien. Il y a eu une sur les deux mois. Il y a eu une installation de poteaux 5G. Une. Elle n'a pas aidé là.
Oui, mais de toute façon, voilà, les fréquences ne sont toujours pas attribuées et tout ça. Donc le matériel n'est même pas encore achetable pour les opérateurs parce qu'ils ne savent pas encore dans quelle gamme exacte de fréquences ils sont.
Ouais, et surtout c'est de l'expérimental quoi. C'est uniquement pour faire des expériences autour de la 5G et de cette fréquence 3,5.
Tu veux dire des expériences sur la crédulité de certaines personnes? Qui chloroquine leur homéopathie?
Malheureusement, avec certaines rumeurs, certains fausses informations autour de la 5G ou même des ondes électromagnétiques en général, on doit malheureusement constater plus de 25 sites de téléphonie mobile, mais qui également pouvaient avoir de la radio, de la télévision.
Il y a des radios associatives qui ont été touchées par des abrutis qui s'amusaient à faire flamber des sites émetteurs. C'est lequel il n'y avait pas de téléphonie d'ailleurs, c'est ça qui est terrible.
Et là, hélas, malheureusement, il y a eu des pertes. Et ici, sur Midi-Pyrénées, on compte 5 sites brûlés ou totalement détruits, dont 2 sur Toulouse même.